Il est 6h40 sur France Culture. Bonjour Jacques Munier.
Bonjour Clara Le Coq-Réal.
C'est l'heure de votre journal des idées et vous parlez fraude fiscale aujourd'hui, oui. Jacques, puisqu'un projet de loi contre la fraude fiscale est débattu en ce moment à l'Assemblée, puisqu'il y a eu de nouvelles révélations avec les Dubai Papers ces derniers jours, affaires de corruption, financement opaque des partis politiques. Bref, Jacques, l'argent menace-t-il la démocratie?
Eh oui, c'est le sens de l'enquête menée par Julia Cagé dans un livre dont on parle beaucoup. Le prix de la démocratie, publié chez Fayard. Julie Clarini en rend compte dans Le Monde. L'économiste, professeur à Sciences Po, montre que dans une élection, plus on donne de l'argent, plus on a de chances de voir son candidat remporter la victoire. Et qu'en France, par exemple, 10% des Français les plus riches donnent 53% des dons et cotisations versés aux partis politiques. Aux États-Unis, c'est encore plus flagrant. 0,01% des Américains ont contribué pour 40% au financement de la campagne de 2016. La comparaison avec d'autres pays européens est éclairante. La Belgique, avec un système de financement public qui plafonne les fonds, fait mieux que l'Allemagne, où il n'y a pas de limite. Outre-Rhin, le financement de plus en plus important de la vie politique par les entreprises n'est pas sans conséquence sur les choix industriels. Fin de citation. D'où la conclusion que le jeu démocratique est faussé, puisque dans bien des cas, le débat d'idées se trouve phagocyté par la course au financement, ce qui contribue à consolider le mur de l'argent et n'est pas sans conséquence sur la montée des populismes. Dans le cas français, où le financement public est calculé au regard du nombre de voix obtenues aux élections, tout nouveau parti est contraint de recourir aux dons privés, ce qui ne favorise guère les mouvements qui défendent une meilleure redistribution des richesses. Et la question reste ouverte à propos du mouvement En Marche, dont les financements sont restés opaques. L'autre puissant facteur de trucage du jeu démocratique, c'est la corruption, un problème endémique, illustré par la nouvelle mise en examen de Claude Guéant dans le cadre de l'enquête sur des soupçons de financement libyen de la campagne présidentielle de Sarkozy en 2007. Le mensuel Books consacre un dossier à cette lancinante question. Comme le souligne Paul Collier, les scandales de corruption sont devenus des questions politiques majeures. Une prise de conscience récente, alors que jusqu'à la fin des années 1990, à la Banque mondiale, le mot lui-même était tabou et que longtemps la pratique fut considérée comme un mal nécessaire. Dans les pays riches, relève l'économiste britannique, l'OCDE a orchestré le vote de loi faisant par exemple de la corruption de fonctionnaires étrangers un délit pénal. Cela peut sembler modeste, mais en France, ces pots de vin étaient jusqu'alors considérés comme des dépenses déductibles de l'impôt sur les sociétés. Comment éradiquer le penchant naturel à la corruption, dans la mesure où elle peut aussi apparaître comme la rétribution d'un service rendu? La morale n'y suffit pas, même si elle peut jouer son rôle, comme on l'a vu chez nous, où un parfum de corruption a suffi pour priver Fillon d'un tiers de ses électeurs. Car dans de nombreux pays, les fonctionnaires mal payés font passer leurs obligations familiales avant le bien public et le bénéfice qu'ils peuvent en tirer pour leur famille l'emporte largement sur le sentiment de culpabilité. Reste, au-delà des propos condescendants sur la bonne gouvernance, cette règle que Max Weber avait soulignée, l'impartialité procédurale. L'organisation de la société suppose le principe de la neutralité de la loi, l'égalité de chacun devant elle. Un principe qui s'applique également à l'administration ou à l'État, et tout indique que l'on se conforme plus volontiers aux règles quand on est traité de façon impartiale et respectueuse. Pour bâtir une société digne de ce nom, trois institutions sont fondamentales: la fiscalité, le droit et la sécurité. Le reste, système de santé, éducation, protection sociale, en dépend. Aux libertariens qui rêvent d'une société post-étatique, l'économiste suggère d'aller vivre en Somalie, d'autant que lorsque l'État commence à engranger des recettes fiscales, il dispose d'un levier pour développer l'économie. Relayant les enquêtes du premier syndicat des finances publiques, le site l'hebdomadaire Marianne s'alarme d'une explosion de la fraude fiscale, alors que cette administration vient d'annoncer la suppression de 3100 postes de contrôleurs. Jamais la fraude fiscale n'a été aussi importante et jamais les contrôles n'ont été aussi faibles, résume Emmanuel Lévy, d'où un effet d'aubaine qui se chiffrerait à rien moins que 100 milliards d'euros, soit une fois et demie le montant total de l'impôt sur le revenu, de quoi assurer à l'État un budget en équilibre, puisque les 100 milliards viendraient financer non seulement les 82 milliards du déficit budgétaire, mais également toute la politique publique en faveur de l'écologie. Conclusion, la mise en péril du consentement à l'impôt, comme le maquillage de la hausse des inégalités, constitue des poisons violents pour la démocratie.